Salut les marques et les smarts et bienvenue dans ce nouveau numéro du supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE, SmackDown Live. Je suis Irem et je suis accompagné, comme toujours, de mon fidèle acolyte Giscal. Salut Giscal.
Salut Irem, salut tout le monde.
Alors Giscal qui visiblement mange des shirashi et des sushis et des makis dans un même repas.
J'ai mon petit truc qui m'attend là, voilà.
Quel bon moment, donc un B4, un M12 et un S7. Donc,
c'est ça, voilà.
30 euros chaque voilà.
30 euros
tickets,
minimum.
Des tickets ouais. Resto de 30 euros jusqu'à. Mm-hmm. Alors bah, justement, bah, on parle de bouffe au menu de cet épisode du supplément SmackDown. Daniel Bryan qui revit un cauchemar qu'il connaît bien. Les Ouzo qui ont payé leur ticket hein, pour venir voir le spectacle comme tout le monde. Natalia qui casse des miroirs avec sa tête. Et enfin, nous avons une battle royale pour déterminer un first contender qui ira affronter Bray Wyatt à WrestleMania. Du lourd. Il y a de l'imprévu, il y a du prévu. On va commencer avec l'imprévu, hein, puisque c'est Daniel Bryan donc, qui ouvre le show, qui nous souhaite la bienvenue à Ontario, dans le Canada. Il nous rappelle que WrestleMania, bah, c'est pour bientôt, hein, c'est dans une quarantaine de jours environ. Un mois et demi, et que la route, bah, elle est pleine de surprises, hein, d'inattendues. Et justement, bah, une surprise, elle est de taille. Il demande au public hein, d'accueillir chaudement la championne de SmackDown, Naomi. Naomi qui arrive sur sa musique très entraînante, mais elle traîne des pieds, justement. Elle se traîne difficilement hein, jusqu'au ring. On se souvient la semaine dernière qu'elle avait annoncé qu'elle avait été blessée lors de son match face à Alexa Bliss. Alors, Daniel Bryan hein, qui dit que tout le monde est fier d'elle, on a les chants You Deserve It, etc. Mais que bah, ce soir, il va devoir faire la chose la plus difficile hein, qu'il ait eu à faire en tant que GM, dans sa jeune carrière de GM. Il nous rappelle, évidemment, hein, voilà, que son histoire hein, est inévitable. Qui s'était produit alors quand il avait dû rendre le titre également et que il avait donc mis fin à sa carrière. On va pas en aller jusque là ce soir,
non.
Mais bon, l'inévitable se produit également ce soir puisque incapable hein, de défendre son titre tous les 30 jours. Alors une règle la WWE assez obscure mais qui brandissent quand ça les arrange. Hein, voilà,
ouais,
champion est censé pouvoir défendre son titre tous les 30 jours.
Peut-être falloir aller voir Dean Ambrose là, peut-être, un de ces
alors,
quatre.
Ce qui est amusant, ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que Daniel Bryan a co-écrit ou préfacé un livre qui sort ou qui sort bientôt, qui s'appelle Les règles non officielles, je crois, de la WWE, en anglais évidemment, et qui reprend notamment toutes les règles qui régissent un peu la WWE, mais visiblement avec un côté un petit peu second degré, Mickey Fab, mi-shoot.
Ouais.
Donc, je ne sais pas si cette règle apparaît dans ce livre. Ce serait intéressant de vérifier. Voilà, un petit travail d'investigation qui t'est confié en direct pour toi, Giscard.
je vais aller regarder, alors.
Donc, voilà, Naomi hein, qui doit donc rendre la précieuse ceinture blanche également, hein, blanche et bleue. Mais le public hein, n'est pas d'accord, hein, évidemment. Naomi est sous le choc. Hein. On sent vraiment l'émotion, là. Hein. C'est pas du chiquet ou alors elle a vraiment pris des cours d'acting accélérée. Elle est sous le choc, c'est long, hein, elle a du mal un peu à se reprendre, hein, mais elle y parvient et elle qui accomplit, elle raconte, hein, elle accomplit son rêve, décrocher enfin ce titre, ça lui a pris des années et des années. Mais là, c'est un peu le retour sur terre, hein, c'est un peu difficile. Elle remet le titre, la ceinture, elle la passe à Daniel Bryan. Évidemment, il n'en faut pas plus pour que quelques instants après, Alexa Bliss débarque. La musique d'Alexa Bliss qui retentit et qui vient donc réclamer, hein, qui vient réclamer son titre. Il venait du cœur, celui-ci, Giscard. Ouais. Le CSA va encore frapper. Qui remet donc, voilà, qui vient réclamer son titre. Hein, elle explique qu'effectivement, elle a jamais eu son rematch. Hein, et bah, du coup, ça lui paraît logique de récupérer le titre sans avoir à réorganiser d'autres matchs. Daniel Bryan, à ce moment-là, il semble convaincu, pas forcément enjoué à cette idée, mais il semble assez convaincu. Voilà, il se dit,
logique.
À la pâteur, effectivement, Pendant ce temps-là, pendant que Daniel Bryan réfléchit, on voit tout le travail là, de mou que fait encore Alexa Bliss, où elle fait donne-le-moi, allez, hein, tu me le donnes, dis, allez, allez, tu verras, c'est pas si compliqué que ça, il suffit que tu me le donnes.
Ça a bien se
Évidemment,
passer.
évidemment, Daniel Bryan ne rend pas le titre, pardon. Il a plutôt une autre idée, voilà, organiser un match de championnat right here, right now, évidemment contre Becky Lynch.
Eh
Alors
oui.
voilà, on a.
Alors, évidemment, évidemment.
Voilà, évidemment, je dis évidemment, mais il y aurait bien. Ça aurait été pas mal peut-être
De nous
de
expliquer?
nous expliquer pourquoi. Il y a les raisons, il y en a, donc c'est pas un problème. Après tout, c'est la précédente championne, etc. Mais bon, elle, quand même, elle ressort d'un match d'une défaite face à Mickie James la semaine
Exactement.
dernière. Donc elle est en pleine rivalité, elle a déjà un programme. Donc bon, passons. Mais voilà, il faut faire un peu de chip-up, il faut lancer le show. Et qui mieux que Becky Lynch versus Alexa Bliss pour le faire. Alors le match commence, un match qui aura duré donc une dizaine de minutes. Hein. On est toujours dans cette même un peu durée de match pour les filles. Donc trop ravi hein, d'avoir cette opportunité tombée du ciel.
Ah
Becky
oui.
Lynch, hein, elle charge sans attendre, elle enchaîne tout son moveset. Elle concentre principalement ses coups sur le bras de son adversaire, hein, toujours avec cette idée de placer son disarmer, évidemment. Elle place notamment un missile dropkick et deux explodeurs, mais rien n'y fait, hein, Alexa Bliss se relève à chaque fois. Pire, elle profite à un moment donné que l'arbitre est en train de remettre le ring en place. Il y a le tablier du ring qui s'est soulevé
Ouais.
et donc bah, l'arbitre ne voit pas ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que Alexa Bliss griffe ou arrache les yeux, les globes oculaires, je crois.
Ouais, non, en fait, elle lui met un coup dans la gorge, en fait. C'est
Bah c'est
bizarre.
bah c'est donc oui bon bah, d'accord.
Ouais.
Ça
Elle lui
passe
met un
alors,
petit
ok.
coup, genre tac, un taquet dans la gorge pour l'étrangler un peu, et du coup, voilà.
Bon, pas fair play en tout cas, prise
Non, pas
non
gentil.
autorisée, je suppose, hein, parce que c'est pas évident à vérifier dans le livre dont je vous ai parlé au début. Toujours est-il, bah, elle en profite, hein, roll-up, un vieux roll-up des familles, bien agrippé quand même, hein, 1, 2, 3, second titre de Alexa Bliss. Ma prophétie s'est réalisée, le règne de Naomi a été de courte durée, pas forcément la manière dont on aurait pu l'imaginer.
Non, ouais.
Sarah rebat pardon les cartes évidemment pour WrestleMania, même si évidemment un retour de Naomi n'est pas impossible, mais ça avait l'air quand même assez difficile. Jusqu'à là, qu'est-ce que tu as pensé de cette grosse séquence d'intro?
Eh ben, c'était pas trop mal tout ça. Ça implique encore les filles assez longuement, hein, qui ont vraiment des places de choix dans cette émission chaque semaine. Bah, ce segment d'intro, c'était un crève-cœur, hein, parce que bah, ça c'était terrible, parce que ce qui se passait dans le ring, c'était très sincère. En plus, le soutien du public derrière rendait la chose encore plus difficile à vivre et à suivre, parce que on sentait qu'on se dirigeait vers l'inévitable. Et à côté de ça, il y avait les chants "You deserve it" qui malgré tout ce que peuvent penser certaines personnes sur les compétences de Naomi, ça fait quand même 3 semaines de suite que le public, en tout cas, n'a que cette phrase à la bouche. Donc, ça doit lui faire du bien quand même après ces années de galère et tout. C'est vrai que bah voilà, on ne peut que la croire, hein, quand elle nous parle de son rêve et de sa journey, comme ils disent, vers le titre. Donc c'est terrible de la voir, bah, du coup, devoir abandonner ça sur une blessure qui n'est peut-être pas si grave que ça, mais qui en tout cas contraigne manifestement la WWE à changer ses plans. Donc ils sont obligés de lui ôter son titre. Donc ouais, moi j'étais vraiment triste pour elle sur ce segment. Le fait que ça vienne de Daniel Bryan, c'est bah, évidemment c'est compliqué. T'en as parlé, hein, il a
Il avait
vécu la
les
même
yeux rouges,
chose.
hein, Daniel.
Ouais, tu sens que, parce que je pense qu'à mon avis, il prend quand même son rôle très à cœur à SmackDown, et que c'est un peu tous ses petits poulains. Et je pense que vraiment, il était vraiment triste de devoir faire ça. Donc c'était bien exécuté. Et du coup, j'ai vraiment vécu l'arrivée d'Alexa Bliss comme vraiment
Oh ben, on l'a entendu, hein.
un sale moment, parce que c'était le tout était bien fait. Et du coup, quand t'entends sa musique, tu te dis mais quelle pute, quoi. Enfin, genre, tu la vois
Elle ne
arriver avec
reculera
son
devant rien.
petit
Quelle
sourire,
rapace.
elle se croise sur la rampe, et Alexa Bliss qui la regarde
Ah oui, ce regard qu'elle lui jette. Hein.
avec son regard habituel, hein. Donc la promo derrière était pas trop mal. J'ai trouvé qu'elle avait eu un petit peu de mal quand même à jouer avec le public sur sa promo derrière, parce que le public lui a clairement réservé un sale accueil qu'elle méritait. Elle a eu un peu du mal à se faire entendre. Elle voulait absolument faire sa promo. À un moment, elle a commencé à jouer un peu avec les watts.
Ouais.
C'était pas mal. Mais au début, elle avait du mal parce qu'elle débitait son truc, mais en fait, on l'entendait très peu parce que le public l'a hué, l'a hué, l'a hué et tout.
La grosse épreuve du feu, là.
Ouais, c'était la grosse épreuve du feu. Bon,
elle s'en est quand même plutôt bien tirée.
Elle s'en sort bien. Et puis bah après voilà, il y a ce booking de match un peu bizarre parce que tu l'as dit, Becky Lynch sort d'une défaite, tu peux te demander pourquoi. Bon, on va accepter parce que c'est la première championne de SmackDown, on va dire que c'est peut-être la plus légitime parmi toutes celles qui sont dans le vestiaire derrière pour venir avoir cette petite chance. Et puis bah clairement elle a conforté sa position de Sami Zayn féminine hein, parce que c'est de plus en plus ça quand même hein, Becky Lynch, c'est la gentille face combative, un peu coconne parfois, qui se fait quand même souvent avoir. Hein.
Oui, les roues ont une âme, c'est ça que tu es en train de dire.
Les roues ont une âme, oui. Okay. Mais elle se fait quand même souvent avoir, ça devient un petit peu sa marque de fabrique, hein, que ce soit par Mickey James, par Alexa Bliss.
Ouais.
Elle est manifestement toujours un petit peu du mauvais côté de l'affaire à chaque fois. Mm. Un match assez vite torché, je dois t'avouer que j'étais assez déçu quand même. Sentais que c'était un peu du lastminute.com, là, cette affaire. Parce que elles ont eu 9 minutes, mais bon, ça a été largement tronqué par la coupure pub, mais c'était quand même du ultra basique avec 2-3 petits moves et un roll-up pour conclure tout ça.
Ouais.
Donc bon, grosso modo, on a voulu remettre la ceinture, on reboot quoi. On a remis la ceinture là où elle était, puisque bon bah le plan de Naomi s'est cassé. Il sera intéressant maintenant de voir comment est-ce que l'histoire autour de Mickie James et Becky Lynch transitionne vers tout ça.
Oui, est-ce que donc je ne l'ai pas précisé, mais Mickie James est évidemment arrivé à la fin de la séquence pour tenter, sans succès, de passer à tabac
exactement.
Becky Lynch.
Donc du coup, à voir, puisque le reste des filles du roster semble quand même assez prise par ailleurs. Donc la suite sera intéressante de voir comment est-ce qu'ils arrivent à rebondir. Ils ont manifestement mis un petit bouton, enfin ils ont appuyé sur le rembobinage, pardon. Donc voilà, ils sont revenus sur Alexa Bliss. À voir, voilà.
Eh ben, tu me tends une perche de transition énorme. On parlera de rembobinage. Eh ben, on va suivre avec les American Alpha, puisqu'on se souvient, on avait dit qu'il y avait eu un petit peu de rembobinage pour se retrouver dans une situation qui était celle d'il y a quelques mois où les American Alpha étaient en rivalité avec les Usos. C'est ce qui est en train de se remettre en place. Hein. Ce soir, pour autant, les American Alpha ont un match face à la paire Breezango ou Fabrize, selon les sources.
Ça dépend des semaines.
Ça dépend des semaines. Hein. Donc la Fashion Police hein, qui attaque les champions alors qu'ils entrent à peine sur le ring. Et puis après, ben, le classico de tag de Gable sur Jordan. Ils finissent par placer leur Doomsday Bulldog. Hein.
Oui. C'était sympa, ça.
Ouais, une alternative à leur finisher assez sympa et qui remporte donc le match sans trop de difficultés.
Squash.
Oui, voilà. En un mot comme en un seul. Soudain, on entend les Usos, la voix des Usos qui résonne, mais on ne sait pas trop d'où ça vient, cette voix. Et en fait, simplement, les Usos sont dans les premiers rangs et ils arrivent à travers le public. Ils ont pris leur ticket carré or. Et donc, ils s'en prennent verbalement aux American Alpha. Ils ne leur laissent pas le temps d'en placer une seule. Clairement, ils étaient mais chauds, bouillants. Je n'ai pas tout noté. La promo, mais ça vaut le coup d'oreille.
Elle était assez sympa. Ouais.
C'était assez marrant parce qu'il y avait pas mal de références à Hulk Hogan. Prenez tes vitamines et faites vos prières. Il y avait un côté The Rock aussi dans la façon dont il se comportait. Tout ce dynamisme était assez rock'n'roll et donc grosso modo bah, ils annoncent hein, qu'ils vont leur botter le cul et ils leur rappellent que ce sont eux les vrais bonhommes de la division. Un petit mot rapide sur la division tag team en général et peut-être ce segment en particulier jusqu'à là.
Plus ce segment parce que le match était bon, y a rien à dire sur le match hein. C'est du squash. Ils en avaient peut-être un peu besoin d'un petit squash avec un petit changement de finisher, c'était pas trop mal donc c'était du bon boulot. Par contre, j'ai beaucoup aimé la promo des Usos après. Alors, je sais pas, j'imagine que c'est une promo qui a peut-être pas dû plaire à tout le monde, enfin elle était très bizarre en fait cette promo. Ça n'avait rien à voir avec les promos qu'on peut avoir habituellement, parce que.
Qu'est-ce qui t'a choqué ou surpris?
Ils étaient vraiment dans une attitude ultra agressive et dans une diction qui ressemble à rien du tout de ce que tu peux voir habituellement, à savoir que en fait ça ne reposait sur aucune interaction avec le public ou avec les adversaires, aucune phrase posée, aucune catchphrase, aucune c'est pas la promo standard quoi. Ils étaient là, ils ont débité leur truc de manière
l'idée c'est vraiment de faire une grosse vague, un raz-de-marée sur la tronche.
Ça exactement, genre tu te prends ça et tu peux plus les arrêter et ils te parlent et t'es là tu ne peux que subir leur promo. Je trouvais qu'elle était du coup dans la forme assez intéressante. Sur le fond, ils ont pas dit grand-chose de nouveau, hein. Voilà, ils sont ultra chauds, ils vont tout défoncer. Ils essayent d'installer un peu une gimmick de heel, je sais pas, un peu quali avec leur five stars derrière leur hoodie, et puis le fait qu'ils roulent dans des belles bagnoles et que les autres c'est des tocards parce que genre ils sont à un moment c'était trop drôle quand ils parlaient chacun leur tour, c'était drôle parce qu'à un moment ils ont fait un peu du ping-pong les deux frères.
Oui, alors, en plus étant jumeaux.
Ouais, et puis il y en avait un qui disait ouais, donc là après à la sortie de l'arène, vous allez monter dans votre voiture de Locke. Et puis l'autre qui disait ouais, et puis vous allez accrocher votre ceinture, et puis l'autre qui disait ouais, et puis après vous allez conduire jusqu'à votre petit hôtel miteux, et l'autre qui lui dit ouais, d'ailleurs c'est probablement à 2 étoiles, et puis après, il lui dit ouais, et puis vous allez prendre votre petit protein shake et votre petite protein bar, parce que voilà, c'est des gros baraques, alors que tu vois, c'est des straight from the hood, ils sont un peu ils sont tels qu'ils sont, ils sont un peu nature et tout, hein. Et puis l'autre qui lui fait est-ce qu'ils ont choisi chocolat, vanille, on sait pas. Enfin, c'était super drôle. Moi, je trouvais que c'était vachement dynamique. Ça changeait complètement. Il y avait un côté un peu old school dans la promo. Donc très sympa, ouais. Très sympa. Et puis clairement, ça fait un impact, quoi. Tu vois, tu t'en souviens. Tu te dis, waouh, les Usos ont fait une promo, et tu t'en souviens après coup, quoi. Donc c'était pas mal. J'aime bien. Bon boulot. J'ai hâte que ça commence vraiment un peu à se friter dans le ring, quand même.
Ouais.
Parce que ça fait un petit moment qu'on attend. Donc j'ai quand même hâte, que ça arrive. Et puis bah écoute, let's go. Enfin, je pense que ça va être un bon match, une bonne rivalité. Est-ce que ça va arriver jusqu'à WrestleMania? Tout ça, je suis pas sûr parce que j'ai de gros doutes, mais sur la possibilité qu'ils aient un match à Mania, parce que la carte m'a l'air tellement compliquée à booker que je sais pas s'il y aura de la place pour les équipes. Mais bon, en tout cas, ça me plaît bien comme programme. Donc je suis content que ça se concrétise.
Eh ben, un programme justement qui s'est concrétisé mais qui a du mal à se terminer, ben c'est la rivalité entre Natalia et Nikki Bella justement, qui doit se solder normalement ce soir dans un False Count Anywhere, hein. Les deux n'arrêtaient pas de se mettre sur la tronche en dehors du ring, donc intelligemment Daniel Bryan y a vu une opportunité de booker cette stipulation. Donc à ce moment-là, il y a quand même pas mal d'enjeux sur ce match parce que la rivalité... Et un peu mi-figue, mi-raisin. Ouais. On a vraiment le meilleur, si je puis dire, qui côtoie le pire. donc là, ouais. C'est le moment de s'en mettre plein la tronche. Donc Nikki, qui justement hein, va directement chercher à sortir une table sous le ring, mais sans succès, puisque Natalia l'en empêche. Et à la place, donc Nikki récupère par contre des kendo sticks. Hein. Ouais. On se retrouve avec un brawl dans le public. Natalia. On en parlait justement en off juste avant. Natalia qui va tenter après une superplex depuis les gradins à ce moment-là. On est dans une zone assez étrange d'ailleurs du public, les gradins, on ne sait pas trop où elles sont. Nikki s'est retrouvée projetée, je ne sais pas trop dans quoi, une piscine à boules, je ne sais pas trop ce que c'était, où elle était. Voilà, il y avait de la logistique.
Ouais, je ne sais pas.
Et toujours est-il que Natalia voilà, veut tenter une grosse souplesse arrière, mais Nikki le contre par un disaster kick. À ce moment-là, si vous avez écouté le match, vous avez sans doute dû entendre un paquet de consignes qu'elles se sont données entre elles, des petits bien joués, vas-y, attends, je te balance par ici, je te balance par là.
Parce que très, très habile de faire ça au milieu du public, en plus, hein, en termes d'immersion du show, c'est bien.
Donc là, je ne sais pas, peut-être que... elle bosse avec Boccia Mania dorénavant et qu'elle va être sûre d'apparaître dans la prochaine vidéo.
Son départ.
Nikki se retrouve balancée dans les barricades puis dans les marches de fer hein, par Natalia qui s'empare du kendo stick mais n'en fait rien. À ce moment-là, elle a une meilleure idée. Elle nettoie la table des commentateurs. Mais c'est Nikki, évidemment, hein, qui a fini par allonger son adversaire avec un Alabama Slam. La table résiste. Hein. Ça continue dans les backstage à ce moment-là. Natalia envoie valdinguer Nikki dans une innocente personne qui passait par là. Évidemment, c'est Maryse dont on parle. Retour de Karma un peu plus tard, pas la catcheuse, hein, le truc un peu philosophique, quoi. Nikki.
J'espère que tu l'aurais annoncé autrement, quand
Nikki qui envoie valdinguer à son tour son adversaire. C'est Natalia qui se retrouve la tête projetée à travers un miroir. Assez impressionnant, elle s'en sort sans aucune égratignure. Elle est trop forte, elle a la tête dure, hein, cette Canadienne. Natalia qui place alors son sharpshooter, pardon, je n'y arriverai jamais avec cette prise, sur la rampe d'accès. Intervention de la belle Maryse, hein, pas contente d'avoir été malmenée backstage, qui
Non, vraiment
brise,
pas contente, hein.
non, elle était en furieuse, elle brise la jambe de Nikki avec une barre en polystyrène. Le Miz intervient pour arrêter le massacre. Natalia en profite, compte et fait le tomber. 1, 2, 3, victoire de la Canadienne. Natalia, qui n'est donc pas une broken heart comme l'avait annoncé Nikki un peu plus tôt backstage. Et voilà. Donc, est-ce qu'on en a fini avec cette histoire? Et qu'as-tu pensé de ce match à stipulation? Est-ce qu'elles ont délivré les filles?
Non. Enfin, moi je trouve pas. J'ai pas été très fan. Elles ont fait mieux que ce à quoi je m'attendais quand même. Mais j'ai trouvé que ça restait quand même assez moyen. Je trouvais que c'est, de manière générale, ça manquait un peu de psychologie, un peu de. C'était très scolaire comme match en
La
fait.
psychologie, j'en ai pas parlé parce qu'une fois de plus, ça consistait à faire des You can see me, donc.
Oui, voilà, c'est toujours la même chose. C'est ultra scolaire comme match. C'était vraiment, on avait l'impression de voir le false count anywhere pour les nuls, à savoir, on commence dans le ring, tout de suite on sort, on va d'un point A à un point B, on va faire notre spot là-bas, on fait notre spot, on revient, ensuite on fait un spot dans le ring, on ressort, on va faire un spot derrière dans les coulisses, on revient. Enfin, c'était ultra entendu, ultra basique. La psychologie dans le ring était quasiment non existante. Il y a pas eu pendant tout le match un seul spot qui te donnait l'impression d'un near fall, tu vois. Enfin, à chaque fois, c'était des tentatives de tomber ultra rapide à deux, un peu pourries. Il y avait éventuellement le seul gros spot peut-être qu'elles avaient prévu, et c'est pas de chance pour elles. Le coup du Alabama Slam sur la table qui casse pas, c'est vrai que c'est dommage. Ça aurait pu ajouter un petit truc en plus. Bon, le côté du miroir, c'était sympa. Faut reconnaître que c'est vrai que j'étais là, waouh. C'est vrai que le côté du miroir, c'était plutôt pas mal. Mais sinon, à côté de ça, voilà, c'était des You Can See Me. C'était des spots qui n'avaient pas de sens. Alors, à un moment, il y a Nikki Bella qui sort la table de sous le ring. Et du coup, tout le monde est trop chaud. Et là, t'as Natalia qui la contre et qui arrive et qui dit, vous voulez une table? Non. Donc du coup, elle l'arrange pour décevoir le public. Ça, d'accord. Mais par contre, elle refait la même chose juste après avec le kendo stick, ce qui n'a aucun, enfin genre, ça n'a aucun sens. Genre, vous voulez le kendo stick? Eh ben, je vais pas m'en servir, même si ça pourrait me donner un putain d'avantage là de la frapper avec. Je vais pas m'en servir. Donc non. Enfin bref, il y a plein de trucs que j'ai trouvé moyen. Donc bref, le match n'était pas ouf. Par contre, bon bah du coup, on sait pas trop. Est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est vraiment fini? Parce que le finish n'était pas vraiment décisif, hein. Il y a eu l'intervention de Maryse. Maryse qui du coup bah, rentre dans le mix comme beaucoup le pressentaient, hein, parce que c'est vrai que bon, moi je suis pas trop les rumeurs. Il y avait beaucoup de rumeurs autour d'un match entre Maryse et Nikki Bella avec leurs compagnons respectifs. Et jusqu'à aujourd'hui, avec les rumeurs en tête, je trouve que oui, on pouvait voir des indices, mais vraiment quand on était conditionné et qu'on se disait qu'il y avait une raison derrière. Bon là c'est clair. Voilà, en effet, il y avait bien quelque chose dans les bacs. Donc voilà, Maryse dans le mix. Alors Maryse, manifestement, faut pas la faire chier, hein, parce que
La furie.
Tu lui rentres dedans en coulisses, elle revient avec une barre de fer pour te péter la jambe.
Je
Enfin,
pense
c'est
qu'il
pas
vaut mieux pas la bousculer dans le métro.
Ah ouais, non, là, je sais pas,
Elle
elle
te
te
jette sous
sort.
la voie.
Elle te jette sous la voie, je pense. Ouais, c'est ça. Donc bon, j'ai trouvé la réaction un peu disproportionnée quand elle est arrivée avec sa barre. Là, je me suis dit, c'est que ce bordel. Bon, ok. Le Miz qui vient du coup la chercher. Bon, c'était pas trop mal pour la calmer et tout. Bon, écoute, là comme ça à chaud, je sais pas trop quoi en penser parce que on va voir où est-ce que ça nous emmène. Si c'est vraiment une histoire de tag team mixte, écoute, moi ça me déplaît pas personnellement. Voilà. Chacun sa came. Moi, si ça permet de remettre le Miz et Cena dans une rivalité, moi je suis super content parce que je trouve que c'est les deux meilleurs talkers de la WWE actuellement et ça va être génial. Après, voilà, peut-être que le match sera pas dingue, mais en tout cas, ça peut donner une belle rivalité. Ça peut donner une belle rivalité de mid-card avec des beaux moments. C'est Cena qui est potentiellement loin du main event à Mania. Ça devrait faire plaisir à pas mal de gens, a priori. Donc, du coup, je me dis, écoute, why not? Voyons voir ce qu'ils en font.
Justement, le main event, John Cena en sera loin, mais ce soir, John Cena est quand même là pour tenter de décrocher à ce moment-là une place pour le main event. Hein. On n'y est pas encore à ce moment-là. À ce moment-là, la rivalité, elle est entre Maryse et Nikki. Mais évidemment, les garçons ne vont pas en rester là. Donc, on a ce soir donc la fameuse Battle Royale qui est organisée. Hein. Donc, petit clin d'œil, on va dire, au Royal Rumble. Hein. C'était plutôt intelligent de faire ça, même si le roster est ce qu'il est et qu'on se retrouve avec Mojo Rawley dans la liste des participants. Mais bon,
tout le monde a droit à une chance.
Tout le monde est là. Hein. On a John Cena, AJ Styles, Le Miz, Luke Harper, Le Baron, évidemment, Dolph Ziggler, Apollo fucking Crews, Kalisto Lucha Finks, Mojo Rawley et Dean Ambrose, le champion intercontinental. Donc, évidemment, Dean Ambrose, justement, en rivalité avec Corbin. Donc, en fait, ce qui va se passer vraiment dans cette Battle Royale, c'est qu'on va se baser essentiellement sur les rivalités qui sont déjà écrites. C'est un peu peut-être une différence qu'il y a avec le Royal Rumble. Ça joue pas mal, justement, je trouve, sur la qualité du spectacle. Dean Ambrose, donc, qui fonce dans le tas, dans Corbin, le baron n'étant pas pardon, baron, si tu les écoutes, je retire ce que je dis.
S'il te plaît.
Voilà, c'est un dérapage en direct de ma part. Pendant ce temps-là, hein, tout le monde se met sur la tronche. Styles hein, qui s'en prend à Ziggler et Cena, mais qui se fait maîtriser. Dolph Ziggler, évidemment, le spécialiste hein, qui va plusieurs fois teaser, comme on dit, des éliminations. Hein, il est toujours au bord
Fil du rasoir.
De la chute, au fil de rasoir, comme tu dis si bien, Giscal. Ensuite, le baron qui revient, il en veut là, baron. Hein. Il est temps de montrer que c'est lui le patron. Il place son Deep Six sur le Miz. Hein. On parlait du Miz tout à l'heure.
Ouais.
Le voilà, le Miz hein, qui se prend son coup. Hein. Évidemment, le Miz qui lui cherche plutôt à éviter les embrouilles physiques. Hein. Il est malin, le Miz. Ensuite, il balance. C'est Mojo Rawley. Hein. C'est Mojo qui évidemment va faire la première élimination. Enfin, va subir la première élimination. Par le baron, si je ne dis pas de bêtises. Kalisto et Dean Ambrose à ce moment-là tentent un truc qui ressemble vaguement à un moonsault, press pad comme on dit, hein, quelque chose qui aurait pu être sympa, mais ça foire
mais
un petit peu.
Finalement, non. Ouais. c'est comme eux en fait, c'est ça.
Ziggler qui s'en prend au masque de Kalisto, hein, cette vieille ficelle. Mais bon, n'y parvient pas, mais à la place, il le super kick. Allez, hop, élimination du Luchador. Apollo Funkin' Cruz en profite pour éliminer Ziggler. Ziggler n'est pas content. Ziggler va chercher sa chaise.
Sa fameuse.
Sa fameuse chaise qu'il trimballe de ville en ville hein, sur la tournée, dans son bus. Et qui donc arme sa chaise. Pendant ce temps-là, je me souviens plus si... tabasse Kalisto ou pas. Si, tant qu'à faire.
Juste, c'est pour bonne mesure.
Pour bonne mesure, parce qu'on aime bien taper sur des petits Mexicains. Je pense que c'est le catcheur préféré du président des États-Unis en ce moment. Je dis notre parce que voilà, pour nous, c'est quand même il est l'un des nôtres.
C'est un peu notre président.
Apollo fucking Cruz, qui n'est pas si fucking Cruz, parce qu'il se fait distraire, évidemment, par ce qui est en train de se passer à l'extérieur. Et donc, le baron en profite pour le passer par-dessus la troisième corde. John Cena et Styles se retrouvent face à face. Voilà, encore là, un petit peu de comment dire, de une petite dose,
de
rappel. John Cena et Styles.
Petite dose hebdomadaire de.
Voilà, tentative de attitude adjustment de la part du Marine, contrée évidemment par les Styles. Attends, qu'est-ce qu'il fait là? Ça marche pas. Évidemment, tout le monde se retrouve un peu aux quatre coins du ring à ce moment-là. Chacun prend le temps de bien se placer dans un coin, c'est assez marrant à voir. Évidemment, pourquoi ? Parce qu'au centre, il y a le Miz qui est là, et le Miz donc prépare sa fameuse séquence Daniel Bryan-esque.
Ouais.
Les Yes Chants partent, les Shotgun Dropkick partent également. John Cena à ce moment-là, pardon, mais c'est John Cena qui va finir par éliminer le Miz. Le Miz ne s'y attendait pas. Visiblement, il est dégoûté par ce qui vient de se passer. Ça rejoint donc la storyline qui semblait
Voilà.
se mettre en place du côté des filles. Cena, German Suplex sur Ambrose et Styles en même temps, parce qu'il n'y a pas de raison. Ensuite, voilà, il déroule son moveset habituel, mais il se fait prendre par le End of Days de Baron, du Baron. Ambrose, à ce moment-là, qu'on avait un petit peu oublié peut-être, revient et élimine le Baron, une fois de
Ah oui.
plus, une fois de plus. Et oui, voilà, on joue vraiment sur ce qui existe déjà ou ce qui a déjà existé. Le Baron, donc, qui n'est pas content et qui place son End of Days sur le champion intercontinental. Le Miz revient également. Personne ne surveille les allées venues sur ce ring. Le
Ça,
Miz
c'est un
est
scandale. J'ai
éliminé. Et qui...
posé une réclamation d'ailleurs. Hein. J'ai envoyé une lettre de réclamation à la
Voilà,
W.
on va toujours à checker. Je vous invite toujours à vérifier, à regarder dans ce fameux livre des règles de la WWE qui va paraître. Puisque, évidemment, le Miz, l'ancien champion du monde, mais ça commence à dater, supprime. Élimine John Cena de
Quel connard,
l'équation.
mais.
Il a
Quel
su le
connard.
supprime de l'équation. John Cena, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs la façon dont il prend le truc. Il fait, ah, je me suis fait éliminer. Bon, ok. Ah
Non,
mince.
il demande, il avait le droit de faire ça.
Oui, effectivement, oui. Ouais, ça, au début, voilà, il remonte à son tour sur le ring, commence à discuter avec les arbitres. Les arbitres, bah oui, il avait le droit. Voilà, c'est comme ça. Hein, ça n'a
Mais
pas
ça, c'est
changé.
incroyable, ça, c'est quand même incroyable.
Et donc, à ce
Je comprends
moment-là,
pas.
Styles et Harper se font face. Ils se retrouvent, je crois, de l'autre côté des cordes. On l'avait oublié, une fois de plus, Dean Ambrose est de retour. Je ne sais pas où il était, mais voilà. On s'attend à ce qu'il élimine les deux hommes, mais il n'en est rien. Ça se bastonne, grosse bagarre générale entre les deux. Dean Ambrose qui finit par être éliminé. On se retrouve avec donc Luke Harper et AJ Styles. Voilà le duo qu'on imaginait assez qu'on aurait on pouvait imaginer assez facilement ce début de au début avant le début de cette Battle Royale, pardon.
Sans le
Donc
scandale de l'élimination de John Cena, oui, je suis d'accord.
oui, voilà. Nonobstant le scandale de John Cena éliminé, mais donc grosse ambiance à ce moment-là. Harper qui parvient quand même à avoir voilà les encouragements de la foule, mais AJ Styles aussi, donc c'est assez partagé. Alors Harper qui tente de placer une souplesse sur Styles, mais Styles ne se laisse pas faire. Il commence alors à balancer ses coups de pied. Il le place dans un sleeper hold, mais Harper ne se laisse pas avoir pour autant. Les deux continuent à se bagarrer. Puis à ce moment-là, on se retrouve dans une séquence assez étrange où les deux sont pendant de longues minutes dans le coin du ring autour du turnbuckle. Et vas-y que je te
À
passe par
l'extérieur.
au-dessus, par en dessous, vas-y que je me rattrape au dernier moment. On est vraiment là, c'est un numéro d'équilibriste qui se met en place. Évidemment, ce n'est pas anodin puisque les deux finissent par chuter lourdement en même temps, en tout cas c'est la version officielle.
C'est
Ils
ça.
tombent en même temps à l'extérieur du ring. Les arbitres ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'éventuel gagnant. À ce moment-là, évidemment, Reason, on a besoin d'une figure d'autorité pour déterminer, faire un choix. Qu'est-ce qui doit se passer maintenant? Cette figure d'autorité, c'est Daniel Bryan. Daniel Bryan qui arrive et qui dit que, ben voilà, avec les vidéos, les images qu'ils ont, les caméramans étaient pas placés tels que on n'a pas de. On n'a pas de. Voilà, c'est égalité. Les deux ont posé leurs pieds en même temps, visiblement. On ne peut pas départager un vainqueur. Donc, il doit y avoir un match, un one-to-one, pour déterminer, parce qu'on ne peut pas rester sans first contender.
Eh
La
non.
foule se dit, bon, cool, on va avoir le match right here, right now. Mais non, ça a déjà
Ouais.
été fait par Daniel Bryan. Il tease ce match pour la semaine prochaine. On aura donc Luke Harper versus AJ Styles, dans probablement ce qui sera le main event, pour
Oui.
déterminer enfin qui des deux sera le first contender et ira affronter Bray Wyatt sur la plus grande scène d'entre toutes, WrestleMania, jusqu'à Qu'as-tu pensé de cette bataille royale et de tout et des conséquences qu'elle a sur la suite?
C'était bah déjà, enfin, j'ai très mal vécu cette Battle Royale parce qu'il y a eu évidemment un scandale absolument honteux pendant cette Battle Royale. J'espère que la main courante que j'ai posée auprès du service juridique de la WWE va porter ses fruits, mais j'y crois pas trop. C'est marrant, ça fait partie des petites règles, ça. T'as jamais compris pourquoi, mais c'est comme ça, que quelqu'un qui est déjà éliminé puisse venir éliminer quelqu'un du match. Ça, je.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, tu pourrais au moins dire à la limite, ok,
Ah.
qu'il intervienne, ok, mais tu ne peux être éliminé que par un mec qui n'est pas
Ah
éliminé.
oui, donc je partage l'incompréhension de John Cena qui se demandait is this legal à la fin? Ok, très bien,
Plus
d'accord.
l'habitude des batailles royales, hein, visiblement, John Cena.
Ouais, non. Bon, donc bon, malgré cette grande déception, j'ai beaucoup aimé cette bataille royale. J'ai trouvé que elle avait été plutôt très très bien fichue. Passer le début et les éliminations des mecs dont on avait un peu rien à foutre, hein, exit les Kalisto, fucking Cruz, Ziggler, Mojo Rawley et compagnie. Passer ça, c'était très sympa, tu l'as dit. Un peu à rebours des Battle Royale classiques ou général. Bah, Battle Royale classique, non, justement, mais du Royal Rumble où les histoires peuvent se créer pendant le Royal Rumble. Là, vraiment, on a joué à fond sur ce qui existait. Bon, à l'exception du coup de Cena Miz, hein, qui s'officialise petit à petit. Mais du coup, c'était bien joué. Toutes les éliminations avaient du sens, étaient plutôt bien exécutées par les bonnes personnes. Donc, j'ai bien aimé. Il y a eu pas mal de petits teasings tout autour du ring qui étaient pas mal. Des séquences où les gens étaient au bord à se foutre des torgnoles, tu l'as dit, que ce soit sur le finish ou même pendant le match. Il y avait quelques spots assez sympas. Le finish, alors c'est le seul défaut, mais bon, il faut suspendre son incrédulité un petit peu haut. Mais c'est vrai que c'est dommage. Parce que le finish était un tout petit peu foireux, je pense. Enfin, moi, en tout cas, quand je l'ai vécu en live, je me suis dit, oula, enfin, je me suis vraiment demandé si c'était pas un peu foiré, parce que ça, ils sont un peu tombés à la renverse tous les deux. On savait pas trop si c'était ce qu'ils voulaient faire. Impossible de déterminer qui est tombé en premier, même si, bon, quand même de forts soupçons que ce soit la victoire aurait dû revenir à AJ Styles, quand même, j'ai l'impression.
Ah oui,
Mais bon.
d'accord.
Écoute, soit, on n'a pas eu le droit de voir les images vidéo cette fois, donc ils ont pas souhaité nous le remontrer, je pense que c'est mieux.
Daniel Bryan l'a d'ailleurs dit dans le Talking Smack, ils n'ont aucune
Ouais,
image
voilà, c'est ça. Donc,
exploitable.
ils ont aucune image exploitable.
J'étais là à
D'ailleurs,
dire, demander aux spectateurs qui étaient là, parce que tout le monde maintenant a son smartphone et filme.
ouais, il
Donc
y
il
a
y a des mecs au
sûrement une
premier rang.
vidéo, hein, c'est sûr. Non, mais bon. C'est des ficelles qu'ils utilisent. Parfois, il faut l'accepter. Voilà, c'est le match nul, c'est le résultat. Soit, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant à pas mal d'égards parce que le fait qu'ils gardent AJ Styles dans cette affaire, il faut voir ce qu'ils en font. Est-ce que
Oui, c'est ça.
est-ce qu'ils sont en train de changer leur plan? Est-ce que finalement tout n'est pas si simple que ce qu'on aurait pu penser? C'est un petit peu la réflexion qu'on se fait à chaque SmackDown depuis plusieurs semaines. C'est ça qui est intéressant, c'est que l'histoire, on la connaît, hein, depuis 6 mois, Bray Wyatt, Randy Orton, avec des acteurs qui gravitent un petit peu autour. Mais finalement, tout n'est pas si cousu de fil blanc. Cette histoire de rebondissement incroyable de Orton qui ne veut pas affronter Bray Wyatt et qui du coup entraîne une bataille royale. Du coup là, on se dit que c'est l'occasion rêvée pour Luke Harper de s'introduire dans l'histoire. Finalement, AJ Styles fait match nul avec lui, donc il se retrouve en 1-1. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Qu'est-ce qui va se passer si
Oui,
AJ Styles...
un contre un, on se dit, avec face à AJ Styles, c'est une stipulation moins propice à, enfin, pour, à ce que Luke
À
Harper
ce que Luke
s'en
Harper
tire, quoi.
sentir exactement. Est-ce qu'on s'orienterait vers quelque chose où AJ Styles rentrerait dans la course au titre, ce qui pousserait peut-être d'une certaine façon Orton à se déclarer, puisque son maître pourrait, enfin il pourrait estimer que son maître serait en difficulté et du coup il ferait jouer sa clause pour s'incruster dans le match et jouer peut-être les faux alliés jusqu'à la trahison qu'on attend tous. Est-ce que non, on s'oriente bien vers un triple threat de la famille? Est-ce que ce serait peut-être même un fatal four way? On ne sait pas. Il y a beaucoup de choses maintenant qui deviennent possibles. Donc c'est intéressant. Encore un nouveau rebondissement, un rebondissement qui en plus sert à booker un joli main event inédit pour la semaine prochaine,
Ça,
ce qui est plutôt agréable, parce qu'il faut quand même garder à l'esprit qu'on a 5 SmackDown encore
cinq
avant WrestleMania.
SmackDown et ben Ça en fait donc, des sushis, hein. Et des
ça en fait des
B2
H4.
Sushis.
Ouais. donc, écoute, je suis très intéressé par ce dénouement que je n'attendais pas et ce match plutôt sympa qui a confirmé plein de rivalités. Donc, bah voilà, un peu comme pour toutes les autres, j'attends de voir la suite maintenant. Je suis assez intéressé, ouais.
Bien, très bien. En tout cas, j'aime beaucoup là, ton idée de mettre AJ Styles dans le main event et obliger Randy Orton à rejoindre, à faire valoir sa clause, faire un triple threat. Et ça permettrait de mettre Randy Orton
match, hein.
dans le match sans pour autant qu'il ait à de lui-même dévoiler son jeu. Voilà.
Il pourrait
le
continuer
pour protéger,
continuer à avancer masqué. Mmh.
Effectivement. Ouais. Mais bon. On le verra, on verra. Ils ont visiblement beaucoup d'idées, je pense. Ils n'ont pas forcément encore choisi, ou alors si. Bon, on saura jamais. Sauf qu'ils sortiront un livre sur comment ça s'est passé tout ça. On arrive justement au mot de la fin. Oui. Donc, Giscal, si tu veux bien poursuivre hein, et nous fournir ton top, ton flop et ta note pour cet épisode de SmackDown, s'il te plaît.
Mon top, je vais le donner cette semaine à Naomi, la pauvre Naomi.
Ah oui.
Je vais le donner à Naomi parce que pas juste parce qu'elle m'a touché, mais parce que j'ai trouvé qu'elle avait été, à la hauteur d'un segment qui, je pense, n'a pas dû être facile pour elle. Je trouve qu'elle l'a fait comme une pro et avec la bonne dose d'émotion et voilà. Je lui tire mon chapeau parce que ça doit être des moments très compliqués et elle a fait le boulot de A à Z. Donc c'est voilà, je lui donne mon top, même s'il y a eu plein d'autres très bons moments pendant l'émission. Et mon flop, je vais le donner à toujours un peu à Nikki et Natalia pour leur prestation que j'ai trouvé très moyenne pour une stipulation qui est censée être un peu le rêve pour masquer les lacunes de construction d'un match. Justement, on a tellement d'outils pour faire des matchs un peu impressionnants dans des stipulations comme ça que arriver, je trouve, à passer à côté. Enfin, en tout cas, personnellement, moi, je trouve qu'elles sont passées à côté. Je trouve que c'est vraiment pas du bon boulot. Donc c'est dommage pour des catcheuses qui sont expérimentées quand même.
Ouais, moi je t'avoue que je sais vraiment pas si elles essayent et qu'elles y arrivent pas ou si elles essayent pas, toi. Parce que t'as l'impression qu'il y a des moments où, enfin, elles y vont, où elles veulent vraiment essayer de se tenir un peu à niveau par rapport au reste du roster, toi, en faisant un match avec une grosse tipu, en allant dans les gradins, en se mettant vraiment sur la tronche. Mais la réalisation est parfois, au moment de passer à l'action. Tu as l'impression que soit, je sais pas, si elles ont le frein à main ou juste elles n'y arrivent pas ou finalement pas, tu vois vite les limites, que ce soit la psychologie, etc.
Ouais, je me dis que, parce que c'est quand même deux catcheuses qui sont très expérimentées, on aura beau cracher autant qu'on veut sur Nikki Bella, ça reste une très bonne catcheuse quand même qui est là depuis qui a largement fait ses preuves. Mm. Et Natalia, voilà, elle a le bagage qu'elle a. Je suis vraiment surpris de voir qu'elles sont incapables de. En fait, ça marche peut-être pas toutes les deux, hein. Ça colle pas, y a pas d'alchimie, ou alors elles essayent pas, comme tu dis, c'est aussi une possibilité, parce que j'ai du mal à croire qu'elles essayent vraiment et qu'elles ratent à ce point-là leurs matchs, qui sont vraiment sans saveur, en fait. Enfin, y a pas d'être obligé d'avoir recours à des you can see me pour s'attirer des réactions du public, ou des trucs comme ça, c'est pas normal. Écoute, il y a peut-être une part aussi du booking, hein, derrière ça, hein, mais bon. C'est mon flop.
Et ta note pour sanctionner tout ça, alors.
Et ma note, je vais rester un peu dans la lignée de la semaine dernière. Je vais rester quand même en dessous de 4 parce que dans le ring, c'était quand même pas fameux cette semaine. En fait, les deux matchs féminins étaient quand même assez décevants. Et puis à côté de ça, on a eu un squash. Donc au final, il n'y avait que la bataille royale qui vraiment valait le coup en termes de catch. Donc du coup, je vais rester sur un 3,5 parce que après, par contre, sur le papier. On est en plein dans tout ce que j'aime, à savoir que ça c'est bien écrit, tout avance à chaque fois, tous les segments sont bien, il y a du temps pour tout le monde, donc toutes les scènes tag team intercontinentale main event, tout avance, les filles, et puis il reste beaucoup de temps, donc je suis très confiant sur cette road to WrestleMania à SmackDown, en tout cas.
Bah écoute, je te rejoins directement là sur la note, hein, c'est pareil, j'avais mis ça à 3,5, j'ai un peu la même analyse que toi. Mon top, Et mon flop, ça va être un peu la même chose. Mon top, alors mon flop, je vais commencer par mon flop. Mon flop, c'est un peu le, c'est la fin de la bataille royale qui au début, je trouvais ça un peu frustrant de terminer là-dessus. J'étais un peu une vieille ficelle. Et puis la séquence était un peu
Elle est très
botchée, si
très
on
bien
peut dire.
exécutée, c'est
Ouais,
vrai.
c'était pas très
Je
bien,
pense
donc
qu'elle est un
c'était
peu
pas
botchée.
celui. Mais mon top, c'est une fois que ça s'est passé, c'était bien écrit, c'est bien booké, et ça nous donnait un incontrat entre deux excellents catcheurs, un
Intéressant.
qui n'a plus rien à prouver, qui est Jay Styles, et Luke Harper qui, lui, a tout à prouver encore aujourd'hui, combien même on sait qu'il en a sous le pied. Donc finalement, c'est plutôt bien, et du coup, effectivement, ce one-to-one la semaine prochaine.
Très
Très
intéressant.
intéressant sur ce qui va en ressortir.
Ouais.
Et bien voilà, c'est terminé pour cet épisode du supplément SmackDown. Je te remercie, Giscal.
Écoute, merci, Irem.
Je vous rappelle donc que vous pouvez nous suivre sur YouTube pour la vidéo pour voir nos petites têtes et nos sales trognes. Vous
Pour
pouvez
me voir
également.
manger des sushis.
Voilà. Ah, tu me donnes faim là. Moi, j'ai mangé du riz et du jambon. Alors, à la diète.
Oui, donc.
Mais pour les gens qui préfèrent la version audio, eh bien, ça tombe bien, ça existe, puisque vous pouvez vous abonner également sur iTunes ou sur PodCloud ou n'importe quelle autre plateforme hein, pour suivre des podcasts. Ça, vous pouvez même télécharger le petit fichier MP3 et le mettre sur votre vieille clé USB dans votre
Par
voiture,
exemple,
par exemple, ou
exactement.
graver sur un CD ou copier sur une cassette, je ne sais pas, faites comme vous voulez. Vous êtes libre. Vous pouvez également hein, vous abonner, nous suivre sur la page Facebook et le Twitter Facebook, Catch Up C2C pour les deux. Sur le Facebook, comme ça, vous ne manquez aucune publication. Et sur Twitter, on balance aussi un peu des petites conneries par-ci, par-là. Voilà. Donc, c'est une autre façon de nous suivre et de nous supporter également. N'hésitez pas à commenter et à partager ce que vous avez pensé de cet épisode de SmackDown, de partager votre top, votre flop et votre note, ou tout ce qui vous passe par la tête.
Bon, pas tout, tout, tout non plus, hein, attention.
Attention, la
Ouais.
censure guette. La censure guette. Et puis, bah, le prochain rendez-vous pour nos auditeurs, c'est la semaine prochaine avec l'épisode de Raw, hein, Catch Pro. C'est quand, Fastlane?
Alors, ce n'est pas ce dimanche, c'est
D'accord.
dimanche prochain, il me semble.
Donc, ce sera donc pour le Go Home Show de Raw, pour le dernier pay-per-view hein, avant la WrestleMania. Ça passe vite, hein. Ouais. Bientôt un an, hein. Bientôt un an qu'on existe.
C'est vrai, et oui,
Voilà.
en avril.
Ouais, on en reparlera. Bon,
Ouais.
allez, merci à toutes et à tous, merci Giscal, et à la semaine prochaine. Salut!
Ciao. J'ai fini mes sushis, là, j'ai mon chirashi maintenant qui m'attend.